Une image vaut mille mots, dit Confucius. Mais il y a des domaines où le sage chinois se heurte au prophète hébreu qu'était Moïse, comme nous allons le voir ce matin. Nous poursuivons notre étude du livre du Deutéronome, où nous sommes arrivés au rappel par Moïse des 10 commandements. Et c'est le deuxième commandement qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais donc vous lire un passage dans Deutéronome 5, à partir du verset 1er. Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute, Israël, les prescriptions et les ordonnances que moi je dirai à vos oreilles en ce jour, pour les apprendre et les garder, afin de les mettre en pratique. Le Seigneur, notre Dieu, a conclu avec nous une alliance à l'Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais avec nous qui vivons aujourd'hui. Le Seigneur a parlé avec vous, face à face, sur la montagne du milieu du feu. Moi, je me suis tenu entre le Seigneur et vous, en ce temps, pour vous communiquer la parole du Seigneur, car vous aviez peur du feu, et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Il a dit, « Moi, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas pour toi d'idole, ni aucune représentation de ce qui est dans les cieux, en haut ou sur la terre, en bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui intervient contre les fautes des pères, jusqu'à la troisième et la quatrième génération des fils de ceux qui me haïssent et qui exercent ma bienveillance jusqu'à la millième génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » L'une des premières difficultés que nous devons affronter en nous penchant sur ce deuxième commandement, c'est de bien comprendre comment il se situe par rapport au premier. Les deux sont incontestablement très proches, et nous allons voir, il y a des passerelles de l'un à l'autre, au point que, parfois, les gens se sont interrogés s'il ne faut qu'un, au bout du compte. Les Juifs et la tradition catholique, effectivement, considèrent que ce que nous appelons le deuxième commandement fait encore partie du premier. Plutôt qu'il fait un avec le premier. Parce que, voyez-vous, si on considère ça, on a un problème pour arriver à 10 commandements. Et les Juifs et les catholiques n'ont pas résolu le problème de la même façon. Pour les Juifs, qui parlent plutôt de 10 paroles que de 10 commandements, la première parole, c'est le préambule. « Je suis le Seigneur » que nous venons de lire, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ensuite, vous avez ce commandement qui interdit d'avoir d'autres dieux et qui interdit d'avoir des images, qui ne fait qu'un seul, et après, vous arrivez à 10. Les catholiques ne font pas ça, parce que c'est quand même pas évident de mélanger dans un même panier des déclarations du type « Je suis le Seigneur » et puis 9 commandements qui interdisent ou qui prescrivent certaines choses. C'est pour ça qu'il commence avec cette interdiction d'avoir d'autres dieux, mais à la fin, ils ont une difficulté pour arriver à 10 aussi. Et donc, ils ont coupé le 10e en deux. C'est-à-dire, ils distinguent entre la convoitise des choses du voisin et la convoitise de la femme du voisin. Ce n'est pas super convaincant non plus, d'autant plus que dans la version originale, si j'ose dire celle de l'Exode, ces deux sont inversés. C'est pour ça que la tradition réformée, à laquelle je me joins, a considéré qu'il faut bel et bien distinguer un et deux, c'est-à-dire l'interdiction d'autres divinités et l'interdiction des images, et ainsi vous arrivez assez naturellement à 10 commandements. On pourrait dire que la nuance entre le premier et le deuxième, c'est que le premier commandement se préoccupe de l'objet, de l'adoration, du culte, qui faut-il adorer, et le deuxième commandement vise davantage la manière dont c'est fait. Comment peut-on ou ne doit-on pas adorer Dieu? En quelque sorte, si quelqu'un adorait Dieu en utilisant une image taillée, une statue, il violerait le deuxième commandement, mais pas le premier. En revanche, quelqu'un qui adore une autre divinité, disons Aphrodite, en s'agenouillant devant une statue d'elle, lui violerait à la fois le premier et le deuxième commandement. En tout cas, si vous acceptez cette division des commandements, nous pouvons maintenant nous pencher sur sa portée exacte. Parce que si vous regardez de près, si vous regardez de près, il y a ici deux impératifs. Premièrement, le verset 8, tu ne feras pas pour toi d'idole. Et puis, le verset 9, et c'est quand même pas pareil, tu ne te prosterneras pas devant elle. Alors, regardons d'abord le premier, le verset 8. Et là, je dois tout de suite vous avertir, la traduction qui est correcte est un peu biaisée. Parce qu'on a traduit ici un mot par idole. Alors ce mot, il n'est pas facile de savoir ce qu'il regroupait exactement, ce qu'il voulait exactement dire. La traduction idole est juste, mais à l'origine, c'est plutôt quelque chose de taillé. Et donc une statue, par exemple. Quand on lit aujourd'hui idole, par association d'idées, on va beaucoup plus loin. On imagine tout de suite un totem ou je ne sais pas quelle divinité hindoue ou quelque chose de ce genre-là. Or, le texte ne semble pas viser d'abord ça, mais plus simplement quelque chose de taillé, une statue ou quelque chose comme ça. Une image matérielle de la divinité. Alors, si je lis cet impératif tout seul, ou cet interdit plutôt tout seul, on pourrait conclure qu'il nous est interdit tout court de représenter quoi que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Un interdit d'image absolue. Il y a effectivement eu dans le judaïsme et dans l'islam des courants qui ont retenu cela. Interdiction absolue de représentation figurative. C'est pourquoi dans l'art de l'islam, vous verrez souvent des choses géométriques très belles, mais pas tellement des personnages ou des animaux. J'en profite pour vous dire que là, vous voyez la difficulté qu'on a dans le traitement des textes publics, quand on sort quelque chose de son contexte et on le traite en absolu. Parce qu'un texte ne vaut que dans son contexte. Et ici, c'est assez clair. Parce que si vous regardez ce qui précède ce commandement, vous avez l'interdiction d'avoir d'autres dieux. C'est un interdit dans le domaine culturel. Si vous regardez ce qui suit, vous avez l'interdiction de se prosterner devant ces objets. Et donc, on est toujours dans ce genre-là. On est toujours dans le domaine culturel. Donc, vous ne pouvez pas sortir le verset 8 de son contexte et dire « ça interdit toute représentation ». Nous sommes bel et bien dans le cadre du culte et des choses qui le concernent. Alors, est-ce que le terme veut vraiment dire qu'on n'a pas le droit de représenter des choses? Je ne pense que ça irait vraiment trop loin. Et vous pouvez avoir vos peluches et vos figurines Playmobil sans avoir mauvaise conscience, à condition de ne pas en faire, bien sûr, un objet d'adoration. Et c'est très intéressant, si on regarde dans le contexte scripturaire un peu plus large, vous verrez même dans le temple même, dans le lieu saint lui-même, des représentations de choses. Donc même dans le contexte culturel, il n'y a pas un interdit absolu. Vous aviez, sur l'Arche de l'Alliance, deux représentations de chérubins, ce qui sont bel et bel des choses représentées, des figures. Et donc, dans le projet même de Dieu, parce que Moïse, en réalisant ces objets, s'est conformé aux instructions de Dieu, dans ce contexte même, c'était possible d'avoir des choses, des représentations. Vous verrez aussi dans le temple de Salomon, il y avait des représentations de fruits, de ce genre de choses, des décorations de ce type. Donc, tout le contexte nous montre qu'il faut prendre ça de manière un peu plus étroite. Et ce qui est interdit, c'est d'introduire dans l'adoration, au centre de l'adoration même, des images de toute espèce. Alors, on peut dire, et qu'en est-il des représentations plus littéraires ou mentales au sujet de Dieu? Sont-elles interdites? Je ne pense pas qu'il soit interdit de parler de Dieu en image, parce que nous voyons Jésus le faire. Il compare Dieu le Père tantôt à un chef un peu exigeant ou à un laboureur, et il ne se gêne pas. Et lui-même, il se compare à une mère poule qui voudrait rassembler ses poussins. Donc, il n'est absolument pas interdit, dans le contexte de l'enseignement, d'utiliser des images. Mais attention, il ne faut pas que ces images deviennent autonomes et s'introduisent dans le moment du culte, dans le moment de l'adoration. Quand on parle du culte, toute image recèle de danger, et on y reviendra un peu plus tard. Alors, maintenant où nous avons un peu circonscrit le commandement, posons-nous la question du pourquoi. Pourquoi Dieu interdit-il à son peuple de se tailler des objets pour lui rendre un culte? C'est quand même étonnant que ça se trouve dans les 10 commandements fondamentaux, et en deuxième position. Donc ça semble être quelque chose d'important, et on peut se poser la question, pourquoi? Alors, il a été suggéré par certains que le but était d'éviter que Dieu soit chosifié, en quelque sorte. Qu'il y avait le risque qu'en se taillant une image de Dieu, qu'on peut manipuler comme on veut, en quelque sorte, on manipulerait Dieu. Et l'interdiction des images chercherait à éviter ce genre de manipulation. Alors, que ce risque existe, je pense qu'on peut l'affirmer. Et le troisième commandement, à mon avis, va nous en dire quelque chose. Mais dans le contexte du deuxième commandement, j'y crois pas trop que c'est ça qui est visé, parce que vous avez ici le contexte de gens qui se taillent des images, mais pour se prosterner devant ces images. Et je ne crois pas qu'on puisse affirmer qu'on est là dans une relation de domination. Ce que ces gens-là font, c'est se prosterner, c'est pas tellement l'intention de manipuler cette divinité. Personnellement, ce qui me semble plus probable, c'est que ces représentations sont interdites parce qu'elles sont totalement inadéquates. Quand vous montrez Dieu sous une certaine forme, vous atteignez toujours sa gloire parce qu'il y a tellement de choses de lui que vous ne montrez pas. On le voit par exemple dans l'Exode, quand Aaron taille cette image d'un petit taurillon en or, le veau d'or. Sans doute a-t-il voulu représenter quelque part la force de Dieu, sa puissance, sa vigueur aussi. Et en cela, il représente bien. Mais ce taurillon, il ne représente rien sur l'omniscience de Dieu. Il ne dit rien sur la grâce de Dieu. Il ne dit rien sur son infinie sagesse. Et donc, cette image devient tout de suite une caricature haïssable. Ce qui est figé ne peut pas représenter le Dieu vivant. Un bloc de matière inerte ne saurait jamais représenter le Dieu tout-puissant. Et surtout, une image taillée, par définition silencieuse, ne saurait représenter le Dieu qui parle. C'est quelque chose que nous avons d'ailleurs vu au chapitre 4 déjà. Il y a déjà cette insistance parce que Moïse nous dit « Le Seigneur vous a parlé du milieu du feu, vous avez entendu une voix parler, mais vous n'avez pas vu de forme. Il y avait seulement une voix. » Et Christopher Wright, dans son commentaire du Deutéronome, soulève un autre point très intéressant que je voudrais vous lire. Il écrit « En tant que Dieu qui parle, le Seigneur révèle, interpelle, promet, remet en question, confronte, exige. Toute tentative de transformer le Seigneur en une statue sans voix bâillonne Dieu. Par conséquent, l'idolâtrie est à la base une fuite devant la voix vivante et les commandements du Dieu vivant. Comme Moïse l'expliquera plus tard, l'idolâtrie cananéenne n'a rien fait pour établir une société juste et sociale en Canaan. Tout au contraire, l'idolâtrie permet à l'injustice et à la cruauté de prospérer, car elle ne remet jamais en cause le penchant humain vers l'oppression et l'injustice. Le Seigneur est le Dieu libérateur qui fait sortir d'Égypte, le Dieu qui établit la justice et qui l'exige. Ne laissez pas une statue étouffer la voix du Dieu qui parle. Ce n'est guère une surprise de voir que les deux thèmes qui dominent le discours des prophètes, en tant que porte-parole du Seigneur, ce sont l'idolâtrie et l'injustice sociale. Autrement dit, parce que notre Dieu est un Dieu qui parle, il nous remet constamment en place. Mais prenez des idoles silencieuses et elles vous laissent faire ce que vous voulez faire. Elles vous laissent suivre les penchants naturels de votre cœur. Le commandement nous rappelle que notre Dieu est incomparable et qu'il est inacceptable de le comparer à qui ou quoi que ce soit, à n'importe quelle créature. Et quand on le fait quand même, quand on adore Dieu sous la forme d'une image de ce monde, on prive Dieu de sa gloire et on finit par adorer quelque chose qui n'est pas Dieu. Et c'est là que vous avez la passerelle avec le premier commandement. Si vous adorez une image, vous adorez quelque chose qui n'est pas Dieu, vous adorez un Dieu autre que notre Dieu. Et donc, en violant le deuxième commandement, vous finirez par violer le premier aussi. Et c'est peut-être pour ça que Dieu invoque maintenant sa jalousie. « Je suis un Dieu jaloux, » dit-il. Et ça a pu choquer quelques lecteurs chatouilleux. La jalousie peut-elle être juste? C'est vrai que la jalousie, quand elle se manifeste autour de nous, souvent elle est liée à des dispositions mauvaises. La volonté de dominer l'autre. L'idée de considérer l'autre comme ma propriété. Mon amour propre blessé, et ainsi de suite. Vous avez tous vu cela. Mais je crois qu'il faut l'affirmer, il existe aussi une jalousie juste, c'est-à-dire l'expression d'un amour bafoué, hein, comme l'amour bafoué d'un homme qui aime sa femme et qui, en rentrant du travail, la trouve au lit avec un amant, ou inversement. Hein. Là, vous avez une jalousie juste qui se manifeste, et la jalousie de notre Dieu est de ce type-là. Notre Dieu nous propose une alliance, et cette alliance qu'il nous propose, elle est exclusive. Il s'engage dans cette alliance sans partage, et il attend la même chose de nous, de ses partenaires. Et la fin de notre passage a également fait couler beaucoup d'encre. Je suis un Dieu jaloux qui intervient contre les fautes des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération des fils de ceux qui m'haïssent, et qui exerce ma bienveillance jusqu'à la millième génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, il ne faut sans doute pas imaginer Dieu à la manière d'un huissier de justice qui poursuit les héritiers pour leur soutirer l'argent que lui devaient les ancêtres. Ce serait une caricature. Trois ou quatre générations, comme beaucoup l'ont souligné, c'est le nombre de générations qui vivaient ensemble dans un foyer israélite. Et donc, si quelqu'un péchait, je dirais, ça atteignait immédiatement tout son foyer. Mais au-delà de cette donne sociologique, il me semble que cette phrase nous rappelle le fait que nous ne sommes pas que des individus. Parfois, notre société où l'individu prime nous fait oublier que nous sommes certes individus, mais nous sommes aussi insérés dans un tissu social et que tout ce que nous faisons a un impact autour de nous. Péché et les gens autour de vous seront eux aussi éclaboussés. Alors, en bien et en mal, bien entendu. Et on voit ici que la grâce de Dieu domine quand même, parce que si la faute atteint quelques générations autour de nous, l'obéissance et la fidélité à Dieu, elle semble comme amplifiée. C'est-à-dire Dieu tiendra compte de cette fidélité pour 1000 générations. Alors 1000 générations, c'est plus que la durée de l'histoire connue de l'humanité. C'est une façon de dire pour toujours. Soyez fidèles à Dieu et quelque chose restera pour toujours. Et on voit d'ailleurs dans l'histoire d'Israël, combien de fois Dieu avait-il pas envie de détruire le peuple d'Israël. Parce que parfois on a l'idée que Dieu aime tout juif et il ne serait pas capable de lui infliger quoi que ce soit. Mais souvent Dieu nous rappelle que s'il a si bien traité le peuple d'Israël, c'est qu'il a aimé leurs ancêtres, c'est qu'il a aimé Abraham. Et cette bienveillance de Dieu se propage à toute la descendance d'Abraham. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort assez souvent des textes bibliques. Donc, soyez fidèles et Dieu bénira à travers vous des générations dont vous n'imaginez même pas l'existence. Alors, et alors, me direz-vous, et alors, en quoi le deuxième commandement nous concerne-t-il encore? Est-il obsolète aujourd'hui pour la plupart d'entre nous? On ne se prosterne pas devant les images. C'est vrai. Mais je pense qu'il faut, en lisant ce commandement, il faut se dire qu'il faut être très vigilant quand il s'agit des objets au centre de notre vie de prière. C'est un danger auquel les protestants, à mon avis, sont moins exposés que nos amis catholiques ou orthodoxes, par exemple. Prier devant un crucifix, prier devant une icône, on pourrait se dire, bon, pourquoi pas, si ça les aide. Pourquoi pas, si ça aide quelqu'un à se plonger dans un esprit de prière, ça paraît innocent. Mais le commandement devait nous faire réfléchir plutôt deux fois qu'une. Il y a toujours le risque que cet objet qui n'est qu'une aide glisse peu à peu vers le centre et domine notre piété. Que nous finissions par adorer la chose. Quand on voit, par exemple, les catholiques adorer le Saint-Sacrement, c'est une formule qu'ils revendiquent, je me dis, ils ont peut-être franchi la ligne jaune. En tout cas, je vous encourage vivement à débarrasser vos moments intimes avec Dieu de tout objet, quel qu'il soit. C'est plus dur de s'en passer. C'est pas que l'objet en soi, c'est déjà une faute, mais on y glisse facilement. Et certains risques ne valent pas la peine d'être pris, comme le dit James Packer. Évidemment, ça inclut aussi toutes ces techniques de visualisation dont les spiritualités modernes sont très friandes. Je pense qu'il faut définitivement bannir ce genre d'approche de notre vie de prière. Mais je crois que ce n'est pas tout. Nous sommes mis en garde contre l'adoration des images que nous nous faisons de Dieu. Et celles-là, ces images plus mentales, peuvent aussi se glisser dans notre piété. C'est plus subtil, mais pas forcément moins grave. Quelle est l'influence sur notre piété des idéologies auxquelles nous adhérons? Si mon cœur bat à gauche, est-ce que l'analyse marxiste du monde déteint sur la façon dont je vois le Dieu qui se place en suzerain et qui exige l'obéissance à ses vassaux? Si je suis plutôt un conservateur, attaché aux valeurs de travail, d'effort, de mérite, est-ce que cela pourrait façonner ma façon de me présenter devant Dieu? Aussi, quelle est l'influence de notre vécu? Si j'ai eu un mauvais père, pas de père du tout, est-ce que ces expériences ont un impact sur ma manière de voir mon Père Céleste? Si je fais de mauvaises expériences avec des illuminés, est-ce que ça va changer mon regard sur le Saint-Esprit? Et c'est là qu'il faut revenir au constat que toutes ces images, qu'elles soient physiques ou mentales, toutes ces images sont inadéquates pour faire interface entre nous et Dieu. Les images ne parlent pas, mais notre Dieu, il parle. Et la parole de Dieu est nécessaire pour que nous puissions surmonter les effets néfastes de ces images que, qu'on le veuille ou pas, nous véhiculons tous, condition que nous sommes par notre vécu, par nos idéologies, par notre vie, par notre milieu. Et c'est pour cela, et j'insiste beaucoup sur ça, c'est pour cela que dans l'Écriture, lui, l'oreille, domine sur la vue, la vision. L'oreille domine sur l'œil, dans l'économie de Dieu. Nous avons besoin de fermer les yeux de temps en temps et d'écouter la parole de Dieu qui remet les choses en place. Nous avons besoin de cette épée à double tranchant qui brise les statues que notre esprit ne cesse de façonner. Et en débordant un petit peu de mon sujet, j'ajouterai qu'il nous faut être très attentifs à l'importance que le visuel prend de notre spiritualité et dans nos cultes. Nous vivons dans une société où l'image domine. Nous sommes tous bombardés d'images tous les jours. Et cette pression, elle se propage aussi à l'Église. Parce que nous sommes tous dans ce monde, nous sommes enfants de ce monde. Et nous subissons les influences de ce monde et nous les apportons à l'Église. Nous utilisons maintenant un ordinateur pour projeter les paroles de nos cantiques quand ça marche. Et aujourd'hui, on ne l'a pas vu, mais ce logiciel permet aussi de combiner ces paroles de cantique avec des images. Et tout d'un coup, on se trouve avec des images dans l'Église. Je ne dis pas que ces images sont mauvaises, pour la plupart, elles sont fort belles. Mais attention, il y a ici une porte ouverte à l'image. Et je dirais, le jour où on projette une image de Jésus en chantant un cantique, je dirais, il faut arrêter. Ce n'est sans doute pas très important en soi, mais il faut en garder la maîtrise, il faut en être tout à fait conscient. Je connais aussi des églises où les prédicateurs utilisent systématiquement des présentations de type PowerPoint, très prisées dans les milieux professionnels. Encore, il ne faut pas tout rejeter en bloc. Il y a une utilisation appropriée de ces choses. Et notamment, les images peuvent s'avérer utiles dans l'enseignement. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Je les utilise souvent. Mais il y a là un danger aussi, et il faut rester très vigilant. Pour ma part, j'ai bataillé pendant longtemps, et depuis des années, hein, avec plusieurs pasteurs aussi, pour que nos cultes aient des moments de lecture de la parole, sans commentaires, sans ajouts, sans que tout de suite quelqu'un vienne derrière vous expliquer ce que vous venez d'entendre, comme je le fais maintenant. Hein? C'est tout de même un comble que nos amis catholiques, ils ont ça dans leur messe, ils ont des moments de lecture de la Bible brute. On ne fait rien d'autre que la fermer et écouter. Et nous, les champions autoproclamés de l'Écriture, on n'y arrive pas. En tout cas, je n'ai jamais réussi à durablement instaurer ça dans nos cultes. Et cette difficulté même, semble-t-il, témoigne de ce que nous sommes moins portés vers lui que l'Écriture elle-même. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous avez une bénédiction pour celui qui lit les paroles de ce livre. Et ça ne veut pas dire lire à la maison, ça veut dire lire publiquement. Hein? Et pour ceux qui l'écoutent, il y a une grande vertu dans l'écoute de textes publics. La plupart des textes du Nouveau Testament sont faits pour une lecture publique. Donc pourquoi s'en priver? Un petit mot peut-être sur l'école du dimanche. L'école du dimanche, est-il légitime que l'école du dimanche utilise des images pour parler de Dieu ou de Jésus-Christ dans le cadre de son enseignement? Alors, les gens ne sont pas tous d'accord. Personnellement, je déconseillerais certaines images. Je ne pense pas, par exemple, qu'il soit très utile d'utiliser des images de Dieu le Père, comme celui classique d'un vieillard avec une longue barbe. Hein. Je ne pense pas que nos monitrices utilisent ce genre d'image, mais je crois qu'il faudrait vraiment les éviter, parce que ça véhicule vraiment une caricature de Dieu. Et Jésus, peut-on représenter Jésus? James Packer, que j'ai déjà cité, lui, il est hésitant. Il n'est pas trop chaud pour ça. Si vous voulez mon avis personnel, Je pense que on peut tout à fait utiliser des images de Jésus dans l'enseignement des enfants, à condition, me semble-t-il, de faire bien comprendre aux enfants que ce n'est qu'une image et rien de plus, c'est la manière dont quelqu'un imaginait Jésus. Mais ce n'est pas comme ça qu'il était forcément, que ce n'est qu'une image et rien de plus. Je pense qu'il serait peut-être plus utile d'utiliser des images plus schématiques, hein, plutôt que des photos, par exemple. Ou si on utilise des photos, d'en utiliser des différentes, pour que les enfants réalisent que ce n'est qu'une façon de voir. Mais qu'il ne faut pas imaginer Jésus comme ça. Il ne faudrait pas que dans leur piété personnelle, une image particulière de Jésus s'infiltre, il me semble. Si on peut éviter ça, je crois qu'on peut tout à fait utiliser des images dans le contexte de l'enseignement et plus particulièrement dans l'école du dimanche. Je voudrais terminer avec une belle histoire, une histoire vraie qu'on m'a racontée, de sources très fiables, d'une jeune fille musulmane qui était dans un pays très verrouillé, très fermé à l'évangélisation. Et comme ça arrive apparemment assez souvent dans ces pays, elle avait une vision du Seigneur Jésus qui lui est apparue en rêve. Et était très troublée par cette apparition, et on le comprend, on le serait aussi, je crois. Et elle s'est dit, il faut que je vérifie. Et elle est allée voir, elle avait entendu qu'il y avait à tel endroit des missionnaires chrétiens. Elle est allée les voir et elle leur a dit, écoutez, j'ai vu dans un rêve Jésus, je voudrais vérifier que c'est bien lui que j'ai vu. Est-ce que vous pourriez me montrer des images? Et ces gens-là, ils avaient une sagesse incroyable. Parce qu'ils n'ont pas sorti une image quelque part de Jésus. Mais ils ont dit, assieds-toi, on va lire ensemble. Et ils ont lu quelques pages de l'Évangile ensemble. Et à la fin, cette jeune fille a dit, oui, c'est bien lui que j'ai vu. Et s'est convertie plus tard. Assurément, une image ne vaut pas toujours 1000 mots. Quand il s'agit des choses de Dieu, la parole vaut bien mieux que 1000 images, et bien plus encore. Amen.